Il est 6 heures.
Lumière de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, durant les dernières séances, j'ai longuement parlé de la morale et des vertus. Nous allons maintenant entamer un chemin quelque peu différent par rapport à celui qui a été suivi jusqu'à présent, à savoir rentrer plus profondément dans la tradition de la pensée orthodoxe. Et pour vous parler de la pensée orthodoxe, j'ai pensé d'abord communiquer un certain nombre de textes qui me semblent essentiels dans cette tradition. Ensuite, recourir à mon ami acteur François Martouret, qui viendra lire ces textes que je m'efforcerai de commenter. Le tout pour votre plus grand agrément et votre plus grand ressourcement, afin de goûter, de savourer, de nous émerveiller devant les splendeurs révélées par le Christ et mises en lumière à travers l'histoire par la tradition orthodoxe. Je crois que pour bien comprendre le Christ, il faut bien comprendre ce que l'on appelle religion et les quatre formes que peuvent prendre le religieux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je parlerai du sens général de la religion. Je crois que quand on a affaire aux religieux, pour ne pas se tromper, il importe de distinguer quatre formes du religieux. La première est liée au sacré. La deuxième est liée à la dérive sociologique à laquelle peut conduire le sacré. La troisième à la dérive psychologique. Et enfin, à ce qui se passe quand on va au-delà du sacré. Aujourd'hui, je parlerai simplement du sacré en tant que tel. Qu'est-ce qui caractérise la religion? Ce qui caractérise la religion, c'est la relation à Dieu. C'est-à-dire, comme le dit Mircea Eliade, une source d'existence qui dépasse la réalité dans laquelle nous nous trouvons et qui, quand elle se manifeste à travers la réalité, donne à celle-ci une densité qui est celle d'un réseau de signes auquel renvoie toute chose. Ce qui caractérise l'homme religieux, c'est que pour l'homme religieux, rien n'est banal, parce que tout renvoie à une dimension ontologique manifestée existentiellement et qui confère à toute chose et à tout être sa densité et son mystère. On ne comprend rien aux religieux en général et au Christ en particulier si on ne voit pas que le religieux se développe dans l'espace du sacré et que le Christ est venu bouleverser cette relation au sacré en nous emmenant au-delà du sacré. La caractéristique du sacré, c'est de mettre en relation avec la transcendance et d'entendre par transcendance ce à quoi il ne faut pas toucher. Ce qui est ambigu, parce qu'il existe deux manières d'entendre la transcendance. On peut entendre par transcendance le fait d'être ce à quoi on ne touche pas, et on peut entendre ce à quoi on ne touche pas par transcendance. Attention, ce n'est pas la même chose. Quand quelque chose est transcendant, on n'y touche pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne touche pas à quelque chose que c'est transcendant. Et l'ambiguïté du sacré réside dans les faits de croire et de faire croire que c'est parce qu'on ne touche pas à quelque chose que c'est transcendant. Cela se traduit dans le domaine religieux, où il est frappant de constater que dans tout groupement religieux, il existe ce qu'on pourrait appeler les gardiens du temple, qui sont des veilleurs particulièrement méticuleux, particulièrement exigeants, particulièrement souvent rébarbatifs, qui entendent respecter et faire respecter la transcendance en surveillant qu'on n'y touche pas. D'où la violence du religieux et par là même la violence du sacré soulignée par René Girard. Et la transformation totale du Christ par rapport à cette approche rébarbative du sacré. Le Christ a remis les pharisiens dans le juste chemin en leur rappelant que ce n'est pas parce qu'on ne touche pas à quelque chose que c'est transcendant, mais parce que c'est transcendant, on n'y touche pas. Attention, la transcendance n'est pas un régime policier. La transcendance est un état intérieur qui fait que, sans que personne ne me dise de ne pas toucher à quelque chose, je ne vais pas y toucher. Résumons-nous, il y a deux manières d'envisager l'expérience du religieux. Expérience du sacré comme état exceptionnel devant lequel je m'incline en vivant de tout mon être, et en faisant l'expérience extraordinaire du recueillement devant le plus haut, le plus grand que moi-même, ou bien un ensemble de règles qui sont jalousement mises en place, installées et organisées par un régime autoritaire caricaturant le religieux. Attention! S'il y a la grimace du religieux, il y a la vérité du religieux. Que la grimace du religieux ne l'emporte pas en déformant le visage du religieux, visage saint. C'était les moniales du monastère de Stavropoléos, monastère situé dans le centre de Bucarest, en Roumanie, et qui est l'un des plus grands centres spirituels, non seulement de la Roumanie, mais du monde orthodoxe. Chers amis, la semaine dernière, j'ai reçu le père Givko, qui nous a parlé de son enseignement de droit canonique, après s'être présenté. Et aujourd'hui, cher père, parce que vous avez beaucoup de talent et de grand savoir, vous allez nous parler de l'histoire des églises locales que vous enseignez également. Alors, qu'est-ce que c'est que l'église locale et qu'est-ce que cette histoire des églises locales a à raconter, à nous apporter ?
Mais justement, l'orthodoxie, comme les auditeurs de la Radio Notre-Dame le savent, est composée de différentes églises locales, qu'on appelle aujourd'hui l'église autocéphale. Et quand on parle de cette, ce cours, ce que j'ai mes forces de transmettre à nos étudiants, c'est un petit peu quelque chose auquel j'ai réfléchi depuis longtemps et quelque chose qui me concerne personnellement parce que étant originaire de l'ex-Yougoslavie, plutôt sur ce qu'on appelle Macédoine du Nord, dans ces pays, il y avait là où j'habitais une église autocéphale qu'on appelle l'église archevêchale d'Ohrid et de Macédoine, qui n'était pas reconnue pendant presque trois décennies en tant qu'autocéphale, ni par l'église serbe, ni par l'église orthodoxe. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cette autocéphalie, à quoi ça sert, comment ça se manifeste, ainsi de suite. Et j'ai commencé, comme je l'ai dit la dernière fois, pour être chrétien, il faut être historien, j'ai un petit peu étudié la question des églises locales, d'église autocéphale. Qu'est-ce que c'est une église locale ? J'aime pas trop, à vrai dire, Bertrand, par l'église locale, mais que le titre de cours est église locale, qu'en fait, c'est un terme qui était aussi élaboré pendant avant et pendant le Concile Vatican II, entre église universelle, donc église locale. L'église, dans notre ecclésiologie orthodoxe, c'est quoi l'église ? C'est hommes et femmes qui se rassemblent par la même foi, la même espérance, un Jésus-Christ, et qui viennent tous les dimanches, donc, de faire le culte de la liturgie de la messe pendant ce rassemblement. Et le culte est toujours présidé par quelqu'un. Donc, présidé par quelqu'un, en grec, c'est proistamenos, ce qui dit préside. Le priest, peut-être, vient de là, proistamenos, le président, qu'on appelait au départ presbytère, ensuite évêque. Donc, à la tête de cette communauté, il y a un évêque, épiscopos, qui surveille, qui prononce au nom de la communauté les prières qui s'adressent au Père, au Fils et Saint-Esprit, pour que le Père envoie l'Esprit-Saint sous le pain et sous le vin, pour que le pain devienne le corps du Christ et que le vin devienne le sang du Christ. Et ainsi, par ce miracle, n'est-ce pas, que nous puissions aussi participer au Christ et ainsi recevoir le plus grand don donc de Dieu, de participer à sa vie éternelle, car cette communion est en fait, pour citer un grand père de premier siècle, Ignace le Théophore, Ignace d'Antioche disait, il n'y a pas le plus grand médicament sur la terre pour détruire l'œuvre du diable et la mort. Et ce médicament, c'est la communion. Donc, par cette communion, présidée par un évêque, sur un territoire, c'est ça l'église locale. Mais cette église locale, cet évêché, n'est pas suffisant, n'est-ce pas, elle-même, parce que pour résoudre le problème dont on a parlé d'unité de l'église, des gens qui sont sortis de l'église, soit par des mauvaises œuvres, soit des mauvaises foi, il aura fallu deux fois dans l'année se rassembler, et ce rassemblement constitue ce qu'on appelle l'église territoriale. Donc église territoriale qui s'est toujours inscrivée dans une structure politique de temps où cette église existait. Au départ, c'était l'Empire romain. Ensuite, c'était les États féodaux dans les Balkans et ailleurs. Mais à partir du 19e siècle, il y a un phénomène, surtout dans les Balkans, que ces églises locales, qui étaient autocéphales, et qu'est-ce qui signifie autocéphale, ne signifie rien d'autre que cette église-là locale, territoriale, a le droit de choisir elle-même sa tête, son primat, autocéphale, être soi-même la tête. Et donc, l'autocéphalie, c'est cette possibilité qu'une église choisisse son primat, ses évêques, sans les ingérences extérieures, que ce soit un autre patriarcat ou ainsi de suite. C'est aussi simple que ça, mais malheureusement, l'autocéphalie au 19e siècle est devenue autocéphalisme. C'est ce que j'appelle. Et qu'est-ce que c'est autocéphalisme ? C'est lorsque l'autocéphalie ne signifie plus la capacité, la possibilité de choisir son primat, mais aussi un instrument d'affirmer l'identité, l'indépendance nationale et étatique. Et donc, cette idée...
Alors là, on n'est plus dans le cadre de l'Église.
Voilà ce qui... Mais il faut savoir... Politique. Mais il faut savoir, quand on étudie, cette idée a été importée dans le monde orthodoxe, dans le monde orthodoxe des 20e siècle, par les Grecs, Serbes, Bulgares, qui venaient soit en Allemagne, soit en France d'étudier. Et là, ils embrassaient les idées de la Révolution française, l'État-nation, ou chez les Allemands, l'amour de la patrie, hein, Heimat. Et ils faisaient une sorte de, comment on dit, Frankenstein, oui. Politico-ecclésiastique, l'autocéphalie égale l'indépendance et l'identité nationale. Ce qui
donc
est contraire.
Une dérive nationaliste.
Nationalisme ecclésial. D'accord. Mais je vous dis, c'est un fruit d'une acceptation non critique des structures, des pensées et philosophiques et politiques qui ne sont pas applicables telles quelles dans un autre monde, monde qui est issu de l'Empire byzantin, l'Empire russe, l'Empire ottoman. Vous voyez, donc. Et il y a, nous souffrons cet autocéphalisme, mais l'autocéphalisme, contrairement à ce que nos frères catholiques le pensent, n'est pas caractéristique proprement orthodoxe.
Ah d'accord.
Voilà, donc
parce qu'on a l'impression que c'est la caractéristique de l'Église orthodoxe par rapport, par exemple, à l'Église catholique romaine.
Exactement.
Oui. Et il y a son universalisme.
Oui, mais bon, il faut quand même être un petit peu réaliste.
On peut être orthodoxe et être dans la catholicité aussi.
On peut être catholique, mais on peut même être très nationaliste. Hein, donc il y a un nationalisme chez les catholiques. Hein. Aussi nationalisme chez des protestants, vous voyez, Irlande, donc qui est protestant, britannique, contre les catholiques irlandais. C'est une maladie du 19e siècle, le nationalisme, le ressort.
Vous analysez donc alors, mais alors dans le détail, tout le problème, mais, au fond, tout le problème mais de c'est l'église notre locale faute, mais c'est avec notre... la possibilité du nationalisme.
Mais c'est notre faute, nous surtout, d'accepter cette mutation.
Oui.
Hein, donc de autocéphalie à autocéphalisme. L'autocéphalie, c'est quelque chose de très simple. Donc, mais quand on veut utiliser donc l'autocéphalie pour promouvoir un nouvel État, une nouvelle nation, les nations naissent. Hein, je suis contre l'idée que jusqu'au 18e siècle, on peut avoir la naissance des nations, mais après, je ne sais pas, 1827, il n'y a plus de nations. C'est donc les nations naissent, existent et disparaissent. Et donc, c'est un travail que nous devons faire nous-mêmes. Père Georges Florovski disait que la théologie orthodoxe était dans la captivité babylonienne parce qu'elle était trop influencée par les théologies médiévales catholiques. Mais il y a captivité babylonienne en ce qui concerne l'ecclésiologie. Mm-hmm. Donc le travail de se débarrasser de cette captivité babylonienne au niveau théologie dogmatique, théologie tout court. Mais maintenant, il y a un grand travail que nous devons faire nous-mêmes par donc ce discernement, qu'est-ce qui est la vraie autocéphalie, qu'est-ce que l'autocéphalisme. Et c'est ce que j'efforce pendant ce cours à l'Institut de Serge de démontrer à mes élèves qu'est-ce que c'est une autocéphalie au 4e siècle, au 12e siècle et 20e siècle.
D'accord. Merci beaucoup, cher père Givko, de nous avoir éclairé à propos de la question des autocéphalies. Merci beaucoup.
Et pour terminer cette émission, à nouveau, les moniales du monastère de Stavropoléos dans le centre de Bucarest en Roumanie, monastère remarquable, fameux dans tout le monde orthodoxe.
Maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
Ces quelques larmes, lourdes comme des amphores, dans le silence des cœurs que l'on désarme. Devant nous, le vent du nord, courant sur la mer, rendait l'instant solennel plus triste encore. Et que dire à nos fleurs? Arrosé de baisers, dont l'innocence fait l'éclat des couleurs qu'il ne faut pas perdre son étoile pour un simple naufrage, un naufrage qui qu'il faut saisir la faveur des vents pour reprendre le large, le large que sur tous les murs qu'un jour dressent nos draps, l'espoir met des tableaux encore plus beaux qu'il faut garder. L'essence et la flamme qui rallume les flambeaux, nos flambeaux. Nous avons fixé le ciel, allongé sur les pierres. Où s'était donc perdue notre étincelle? Devant nous, le vent du nord, courant sur la mer, semblait rendre à l'horizon tous nos efforts. Exhumer les secrets, bien gardés de nos cœurs, savoir qu'à ça, il n'y aurait pas d'après. Mais il ne faut pas perdre son étoile pour un simple naufrage. Un naufrage, il faut saisir la faveur des vents pour reprendre le large. Nos draps, l'espoir met des tableaux encore plus beaux qu'il faut garder. L'essence et la flamme qui rallume les flambeaux, nos flambeaux.